Depuis le 15 septembre, des personnels soignants ne peuvent plus exercer leur profession ni toucher leur salaire. Ils expliquent les raisons de leur choix de ne pas se faire vacciner et quelles sont les conséquences. Depuis le 15 septembre, effectivement, les personnels soignants qui ne sont pas vaccinés ne sont plus autorisés à exercer leur métier. La loi du 5 août dernier relative à la gestion de la crise sanitaire a clairement fixé la règle. Si le salarié ne peut plus exercer son activité, celui-ci est suspendu. Son salaire aussi, une mesure qui touche aussi les pompiers ou les salariés du transport sanitaire et bien d'autres secteurs également. Dans le secteur de la santé, cette mesure ne concerne qu'une partie limitée des personnels, selon Olivier Véran, ministre de la Santé. Et sur RTL, ce même ministre de la Santé, le 16 septembre dernier, avait déclaré que le nombre de suspensions était de 3 000 sur les 2,7 millions de salariés. Aujourd'hui, alors que le ministère estime que ces données sont loin d'être exhaustives, les suspensions effectives représenteraient que 0,7% du nombre de personnels de santé, soit près de 19 000 salariés. Chiffre aujourd'hui discutable. Je reçois aujourd'hui le collectif des suspendus oubliés, composé de Véronique, Valérie, Jamila, JP et Jules. Ils viennent nous raconter ce qu'ils vivent depuis le 15 septembre dernier. Et bien bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, vous venez ici nous parler de votre situation, de ce que vous vivez au quotidien depuis ce 15 septembre dernier. Moi, j'aimerais bien que vous me racontiez déjà dans quelles circonstances vous avez été mis à pied et si vous avez été au courant 24 heures avant, 10 jours avant, la veille pour le lendemain. Comment s'est passée cette suspension ?
Ça a été un peu différent pour chacun hein, parce que nous travaillons dans différents services. Mais la règle, c'est que les procédures, enfin ce qui avait été dit dans la loi, n'a pas été respecté. Nous n'avons pas eu d'entretien. On a simplement eu un courrier 3 jours après hein, qui nous précisait qu'on était suspendu. Mais ça a été vécu violemment hein, parce que même si on était préparé, c'était notre choix. Hein, c'est toujours difficile de se sentir rejeté, de ne plus avoir sa place et de ne plus avoir le droit de faire ce qu'on aime hein, et notre travail.
Cette suspension intervient juste après une grosse crise, effectivement, auprès de vos services, où vous avez dû gérer bon nombre de cas. Et donc, avant cette suspension, vous étiez considérés comme un peu
les héros.
Voilà. Et d'un seul coup, plouf, ce n'est plus le cas.
Eh bien, moi, je dirais simplement que les gens ont suivi la ligne directrice du gouvernement qui leur disait eh ben, « applaudissez nos héros », ce qu'ils ont fait, bien sûr, pour du jour au lendemain leur dire « bon, ben, finalement, ces héros que vous avez applaudis il y a quelque temps ne le sont plus puisqu'ils sont devenus un danger ». Un danger pour la société, puisqu'ils refusent la vaccination, donc on va les mettre de côté. Et c'est vrai que, pour ma part, j'ai attendu plusieurs mois qu'on m'appelle, qu'on me dise, bon, nous allons avoir un entretien pour savoir où vous en êtes. Et en fait, non, ça a été le silence total jusqu'au jour J, où ça a été encore le silence total. Je suis rentrée chez moi, je ne savais pas si je devais revenir ou pas. Et je l'ai su par mon chef qui m'a dit « Bon, à partir de tel jour, tu es remplacé. » C'est d'une extrême violence quand vous savez que vous travaillez depuis quand même plus de 30 ans, qu'on peut vous appeler à n'importe quelle heure pour venir remplacer les arrêts maladie, parce que c'est une profession très, très, très difficile, qui a eu beaucoup de difficultés depuis, je dirais, moi, les années 90, où vraiment... on a eu des réductions de personnel, des réductions de lits qui s'est fait de manière croissante. Et là, du jour au lendemain, vous n'existez plus. Du jour au lendemain, vous êtes remplacé. Tout simplement. C'est quelque chose qui est normal. Voilà, ça fait partie de la nouvelle norme. Donc, vous êtes éliminé du système, tout simplement. Donc, c'est extrêmement violent à vivre psychologiquement.
Et ce qui est très frappant, c'est que... au début de la pandémie, les soignants, on les a remerciés d'aller travailler face à ce virus sans aucune protection. Ça, il y a plein de gens qui ont oublié, mais au début, il n'y avait pas de masque. Ils pouvaient travailler alors qu'ils pouvaient être contaminés sans problème et contaminer les autres éventuellement. On ne se posait pas la question, on avait besoin d'eux. Et on les a applaudis. Ensuite est venu le vaccin et d'un coup, ils sont devenus dangereux. Ça pose question quand même.
Est-ce qu'on peut évoquer aussi les raisons pour lesquelles vous avez refusé de vous contraindre à cette obligation vaccinale ?
Oui, c'est très simple. On a peut-être tous des raisons personnelles différentes. Donc je peux parler que pour moi, mais je pense que globalement, ça doit être un peu les mêmes pour tout le monde. Pour moi, la première raison, c'est qu'on n'a absolument, personne n'a absolument aucune idée des effets secondaires sur le long terme, puisque c'est un médicament nouveau. On ne sait pas du tout ce que ça donnera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 6 mois. Donc ça, c'est déjà une raison majeure. Ensuite, la deuxième, c'est le risque d'effets secondaires qui est avéré. Et la troisième, qui n'était pas apparente dès le départ, même si on pouvait le soupçonner, c'est que c'est pas du tout efficace, ni contre la propagation du virus, surtout pas, et moyennement efficace pour ce qui est de la protection de l'individu lui-même. Donc, face à une mesure qui, pour moi, n'a pas de sens, je refuse de me faire injecter une substance douteuse qui me semble dangereuse pour moi et où le bénéfice-risque, il est nettement négatif pour le vaccin dans mon cas. Si ça peut être une bonne chose pour les personnes âgées, les personnes à risque, ça, à voir. Mais dans mon cas, c'est clair et net, il n'est pas question que je prenne cette substance dans mon corps.
Et c'est une AMM conditionnelle, n'oublions pas.
Oui, même le terme de vaccin hein, est abusif. Hein. Il faudrait effectivement qu'il ait été validé dans les règles de l'art, ce qui n'est pas le cas, sous un motif d'urgence. Hein. Moi, j'aimerais en profiter aussi pour dire que pour moi, je ne me sentais pas d'autant moins concerné que je ne suis pas soignant. Je suis considéré personnel hospitalier parce que je travaille pour un centre hospitalier, mais j'exerce une fonction administrative, je ne suis pas en contact direct avec les patients. Mais c'est aussi cette loi qui permet en fait qui a permis ça, hein, c'est-à-dire de faire que des gens qui sont pas même en contact avec des patients puissent être dans une obligation vaccinale. Donc moi je souhaitais pas du tout pour les mêmes raisons que Jean-Pierre évoquait, hein, me soumettre à une vaccination qui pour moi constituait potentiellement plus un risque qu'un quelconque bénéfice, et je ne me sentais pas non plus dangereux pour les autres à ne pas le faire. Donc voilà, je ne l'ai pas fait.
Aujourd'hui, quelques mois plus tard, quel bilan vous pouvez faire de tout ça? Et puis comment allez-vous, vous, dans vos vies? Est-ce que vous souhaitez reprendre le travail? Et peut-être sous quelles conditions?
Alors moi, le premier bilan que je ferai, c'est déjà le fait de dire que je suis totalement abasourdie de voir que les suspendus sont quand même bien oubliés au niveau des médias. On n'en entend jamais parler. C'est quelque chose qui est rentré dans une norme. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez sidérant. Et s'il fallait que j'insiste sur quelque chose, ce serait ce fait-là.
Pour aller dans ton sens, Jamila, il faut aussi quand même pointer le fait que il n'y a pas que des gens suspendus aujourd'hui qui ne sont plus parmi les effectifs des soignants. Il y a aussi tout un tas de gens qui sont en arrêt maladie, et ceux-là, on ne les pointe pas, mais il y en a beaucoup plus que des suspendus, parce qu'effectivement, c'était difficile pour bon nombre de gens de reprendre le travail dans des conditions avec l'obligation vaccinale. Et puis, il y a tout un tas de gens qui ont carrément démissionné. Pas par peur du Covid, par peur du vaccin. Et ça aussi, on le tait. Donc, c'est pas... Je ne sais plus quel chiffre.
Un chiffre qui, à mon avis, ne correspond pas à la réalité. Mais après, je n'ai trouvé que celui-ci. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai commencé à regarder un petit peu dans les médias dans la presse écrite si je trouvais des informations sur, sur les suspendus suite à ces mesures gouvernementales. Et je n'ai absolument rien trouvé, donc, que ce soit dans les médias dits alternatifs ou dans les médias mainstream, je n'ai absolument rien trouvé comme information. Voilà, je tenais à le dire.
C'est ça, et voilà. C'est d'une grande violence du tout, parce que il se passe quelque chose de grave et personne n'en parle et on a l'impression que tout le monde s'en fout. Or, il y a tout un tas de personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles au niveau professionnel juste parce qu'elles ont fait un choix par rapport à leur santé.
Alors c'est important, c'est pour ça qu'on a appelé le collectif les suspendus oubliés, parce que quand même, j'insiste là-dessus, nous avons été déchus de nos droits de subsistance, notre droit de travail et quasiment de notre droit de citoyenneté. Et ça, quand même, c'est pas rien. Et c'est quelque chose qui rentre dans une norme. Et vraiment, il faut insister là-dessus. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Il y a une nouvelle norme qui est en train de s'installer. Voilà. Et ça passe comme une lettre à la poste, quoi. Ça, c'est inadmissible. On n'aurait jamais imaginé quelques années auparavant qu'on puisse dire à quelqu'un, monsieur ou madame, vous n'avez plus le droit de travailler. Et donc, vous n'avez droit à rien, ni aux allocations chômage, ni au RSA, à rien. Alors, voilà, nous sommes dans un système d'apartheid où les non-vaccinés, alors que nous ne sommes pas anti-vax, que je sache, puisque pour tous ceux qui travaillent à l'hôpital, nous avons notre... qu'est-ce qu'on a comme vaccin obligatoire, l'hépatite, voilà. Mais parce que nous avons refusé ce traitement expérimental, parce que moi je n'appelle pas ça un vaccin, ouais, j'appelle ça un traitement expérimental, et nous avons le droit de l'accepter. Le code de Nuremberg l'a spécifiquement dit, pour tout traitement expérimental, il faut le consentement éclairé de l'individu. Or, on fait fi de notre consentement, et on nous impose quelque chose au nom d'une urgence sanitaire. Mais où est cette urgence sanitaire? Où est-elle?
Certains diront qu'on ne vous l'impose pas, puisque vous avez le choix d'arrêter de travailler.
Ah oui, mais arrêter de travailler, d'accord, mais si nous avions licencié, on aurait des droits. Alors que là, c'est vrai qu'après 30 ans de travail en tant que soignant, c'est quand même assez difficile de rebondir, trouver un autre emploi, enfin trouver un autre moyen de subsistance. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un choc, cette suspension. Et bon, il y a des tas de collègues suspendus qui ont tout fait pour attraper la Covid, pour pouvoir être réintégrés et avoir à nouveau un salaire. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette maladie pour laquelle on nous inquiète, on nous fait peur, ça devient une psychose d'attraper cette maladie. Et nous, soignants, on essaye de l'avoir pour avoir un certificat de rétablissement pour pouvoir à nouveau réintégrer notre service et travailler. Donc c'est quand même assez, assez fou d'en arriver là.
Moi, j'ai un sentiment de punition, puisque quand même, si je ne m'abuse, l'année dernière, la ministre du Travail avait quand même proposé, en accord avec les hospitaliers, une rupture de contrat. Et ça nous a été refusé. Dans beaucoup d'établissements, c'est refusé. Donc, parce que tout le monde ne vit pas d'amour et d'eau fraîche.
En fait, nous n'avons aucun statut reconnu. Voilà. On est complètement...
C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous sommes dans un no man's land. Donc, je ne sais pas qui peut nous aider à ce niveau-là. C'est vraiment un no man's land où nous n'avons aucun statut.
Et puis, on aurait pu penser qu'on avait été écartés de nos métiers de manière temporaire, puisque c'était lié à une loi d'urgence. Qui a été voté donc le 5 août, mais qui était applicable jusqu'au 15 novembre. Et puis en fait, de manière tacite, au 15 novembre, l'état d'urgence est prolongé, on modifie quelques lignes, etc. Et puis on laisse les gens suspendus, même sans en parler, on les laisse suspendus. On n'a même pas reçu un courrier pour nous dire « vous êtes toujours suspendus ». C'est comme si on avait disparu, c'est assez
troublant. Oui, c'est ça,
un mépris total.
Donc nous, on a écrit... On a écrit à notre établissement au mois de décembre pour leur demander où on allait, où on était, en précisant qu'on était toujours des professionnels qui aimions notre métier et qui étions désireux de le pratiquer au sein de notre établissement. Et le silence.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez quand même un recours, on va dire, juridique ? Est-ce qu'il y a des avocats qui travaillent sur le sujet ? Est-ce qu'il y a des syndicats ? Parce que j'ai l'impression que les syndicats aussi font la sourde oreille, ou en tout cas ne se mobilisent pas sur ce sujet-là. Mais...
Alors c'est quand même très compliqué parce que c'est une première, enfin c'est de bafouer la loi à ce point, donc il y a un vide juridique, enfin les gens font des recours mais sont pas forcément entendus, enfin et nous on est quand même suspendus, nous on a plus de revenus, donc il faut payer des avocats, nous n'avons pas d'argent pour payer et donc bon on est dans l'attente. D'autres choses. Enfin donc, c'est sûr que notre établissement attend une démission. Hein. Ce serait beaucoup plus simple de ne plus entendre parler de nous, de ne plus être suspendu.
Mais qui dit démission dit que vous pouvez vous asseoir sur vos droits.
Oui, c'est ça. C'est plus facile de démissionner parce qu'ils refusent la rupture conventionnelle. Donc, une démission pour eux, voilà, nous n'avons plus de droits, mais. Voilà, eux, ils n'ont pas à payer non plus notre refus. C'est ça, c'est à celui qui va céder ou tenir le plus longtemps, je ne sais pas.
C'est une question d'endurance d'un côté ou de l'autre. Hein.
Après, c'est pareil, hein. Là encore, on est par rapport à ce que font les avocats, puisqu'effectivement, il y a des avocats qui essaient de trouver des recours, de mettre en place des procédures. Aussi bien dans le public que dans le privé. La difficulté réelle, c'est que là aussi, la loi est une loi d'urgence. Et donc, ce que permet la loi d'urgence, c'est qu'elle est dérogatoire et donc elle s'assoit sur toutes les autres lois. Donc, le Code du travail, tout ce qui pourrait protéger les citoyens, les professionnels, on s'en fout. Ça ne s'applique pas. Par le biais de l'aspect dérogatoire de la loi d'urgence. Mmh. Et donc, tant que la loi d'urgence perdure, bah quelque part, on reste complètement impuissant. Et même les plus grands avocats qui essaient de batailler, qui font des recours au niveau européen, au niveau national, au niveau local, eh ben, sont déboutés ou accouchent d'une souris, quoi.
Après, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi un contexte économique, à savoir que si le MEDEF s'est positionné contre l'application du pass sanitaire dans les grandes sociétés, c'est quand même pour que les ouvriers puissent aller travailler et produire et pouvoir vendre à l'étranger. Le milieu hospitalier, la santé, ça ne rapporte rien, ça coûte de l'argent. Il y a aussi ce contexte aussi économique, non ? Qui est en jeu, il me semble.
C'est vrai qu'on peut dire que ça sert à la réduction des lits, hein, et la baisse des budgets hospitaliers, de ne plus payer les salaires et de ne plus... Enfin, ils ne peuvent plus recevoir autant de patients, voilà, faute de personnel.
Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger quand même quant à l'avenir du service public. Moi, oui. Voilà, je pense que ça fait quand même quelques années qu'on y travaille, hein, et je crois que maintenant il est temps que les choses soient dites, hein. Je pense que les hôpitaux sont une entreprise depuis déjà très très longtemps, et que je pense qu'on veut abolir un peu ce système public.
Oui, de répartition.
Voilà.
Mais, oui, enfin, dans ce que j'entends dans ce que tu dis, effectivement, Jamila, c'est que le service à la population que constitue un système sanitaire, depuis déjà plusieurs décennies, on a voulu le rationaliser, le rendre économiquement viable, voire peu cher. Et c'est plus le service à la population qui guide les politiques de santé, mais l'économie. Et on le voit notamment au niveau des directions des établissements. Il y a eu comme ça un glissement qui a vu donc les médecins directeurs d'hôpital se retrouver chefs de service et les directions données à des administratifs purs, des établissements qui se retrouvent sous tutelle de l'État parce qu'ils n'ont pas des bons chiffres, la mise en place de la T2A, hein, c'est-à-dire que la tarification à l'activité, ce qui enclenche aussi des dérives, hein, c'est-à-dire que plus on fait d'activité, plus on reçoit d'argent. Donc notre système de santé, effectivement, est mis à mal depuis déjà un certain temps. Et effectivement, si à un moment donné on veut privatiser la santé, il faut d'abord complètement rendre le système, le mettre par terre, quoi, en fait. Donc, si la santé est par terre, le privé pourra peut-être effectivement offrir un nouveau type de service de soins.
Enfin, ce qui est quand même assez déplorable, c'est que, bon, nous, on est soignants suspendus, hein, mais il y a aussi des médecins généralistes, hein, qui ont été suspendus.
Oui, toute profession.
Et toute profession, sauf que, il y a déjà pénurie médicale, donc si on commence à suspendre les médecins également, il ne fait pas bon être malade.
Ça constitue un bon moyen, effectivement, de créer des déserts médicaux.
Médicaux.
Oui, oui.
On n'est pas du tout dans une optique sanitaire dans les décisions de ce gouvernement. Non. Parce que sinon, comment est-ce qu'on peut en même temps reconnaître que l'hôpital ne peut pas faire face pour traiter les patients malades du Covid, prétendre ça, et en même temps fermer des lits d'hôpitaux, et en même temps suspendre des soignants? C'est absolument incohérent.
Et épuiser les soignants qui sont sur place.
Épuiser les soignants qui, eux, continuent de travailler. Parce que notre suspension, elle nous frappe, nous, à titre personnel, chacun. Mais elle frappe aussi nos collègues. Qui se retrouvent avec un effectif diminué. Et elle frappe aussi les usagers des services, qui, eux aussi, se retrouvent face à un personnel réduit, qui sont éventuellement exposés à changer leurs habitudes de relation, puisqu'ils n'ont plus les mêmes personnes en face d'eux. Tout ça, c'est un impact qui est complètement ignoré, alors que c'est un impact sanitaire grave.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, les soignants malades du Covid doivent travailler, alors que nous, qui ne sommes pas vaccinés, mais qui sommes sains, nous n'avons pas le droit de travailler.
Ouais. Donc, c'est dans ce sens qu'on peut parler plus de prise en charge, de gestion politique, plus que de gestion sanitaire. Ça fait déjà un petit moment qu'on le dit, qu'on le crie, mais bon... ça aussi, il faut être clair.
Alors, vous avez écrit un courrier aux élus. Ce courrier, est-ce que vous voulez le lire à l'antenne? Et puis, on en discute après, parce que je crois que vous n'avez eu aucun retour de ce courrier.
Alors, les élus locaux, sénateurs, députés, différentes institutions départementales étaient en copie. Et le document était, lui, adressé à la direction de l'établissement.
Il faut dire qu'on n'a eu aucune réponse à ce courrier. Et ça nous a quand même surpris parce qu'on est suspendu. Notre établissement applique la loi, effectivement. Hein, ils attendent des consignes. Donc, on avait quand même interpellé... les élus aussi, mais on n'a pas eu davantage de réponses.
Ça nous a conforté dans le mépris qui nous est attribué. Voilà, c'est tout.
C'est ça, je crois que c'est une des choses les plus difficiles à vivre, c'est le mépris dans lequel on est.
Voilà, la maltraitance du fait vécu et le mépris qu'il y a par la suite, quoi.
Madame la Présidente, professionnels soignants, éducatifs, administratifs, nous sommes suspendus de nos fonctions depuis le 15 septembre 2021. Nous avons été ainsi sanctionnés pour ne pas avoir accepté l'obligation vaccinale que vous avez imposée à l'ensemble de votre personnel en application de la loi du 5 août 2021. C'est à regret, mais pour demeurer en cohérence avec nous-mêmes, que nous avons accepté cette suspension de travail et de salaire. Nous tenons cependant à vous réaffirmer que nous aimons nos métiers et qu'au-delà de la difficulté sociale dans laquelle cette sanction nous plonge, cela constitue pour nous une réelle tristesse de ne pas pouvoir exercer nos fonctions au sein de notre établissement. Ainsi, écarté depuis 3 mois, puisque c'était au mois de décembre, Nous avons cependant suivi l'actualité sanitaire. D'une part, nous avons tous observé les limites de cette politique vaccinale d'urgence. Je passe les points. D'autre part, nous assistons impuissants au désastre psychosocial que génère l'altération durable des conditions de vie de la population depuis 2020. Enfants, adolescents, adultes, personnes âgées sont tous impactés par ces contraintes quotidiennes. Masques, passes sanitaires, limitation des libertés individuelles, ainsi que par la prolifération de messages de peur, de confusion et de stigmatisation. Au regard de la situation, nous prenons l'initiative de rompre le silence pour vous rappeler que nous faisons toujours partie de votre personnel et que nous serions heureux d'apporter notre soutien et nos compétences à l'effort qui doit être fourni pour accompagner au mieux les nombreuses personnes en souffrance. Les gestes barrières que nous avons toujours su appliquer semblent demeurer aujourd'hui la meilleure protection contre la propagation du virus SARS-CoV-2 et ses variants. Certains établissements ont déjà rappelé sans condition vaccinale leur personnel pour assurer en priorité leur mission de santé publique. Nous ne pouvons que vous inviter à faire de même et à nous réintégrer sans condition au plus vite. On n'a pas eu de réponse.
Et pas eu de réponse non plus des élus.
Aucune réponse, les élus étaient en copie. Peut-être que ça a constitué pour eux un motif suffisant pour ne pas nous répondre. En tout cas, non, on n'a pas eu de réponse non plus. En tout cas, ils ont été informés.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez dire à votre direction et plus largement aux élus, au gouvernement ?
Retrouver un peu de bon sens, déjà.
Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas
tellement de mots, en fait.
Non, c'est le bon sens.
Je pense que le bon sens est parti dans cette histoire, et voilà.
Et c'est vrai que on pourrait, dans une certaine logique, se dire que peut-être à un moment donné, ils ont trouvé judicieux de mettre en place tout ce dispositif. Aujourd'hui, notamment avec Omicron, on se rend compte que vaccinés ou non vaccinés, tout le monde attrape le virus, que les conséquences sont rarement, mais vraiment très très rarement aujourd'hui mortelles, hein, on n'en parle pas, quasiment plus. Hein.
En dessous de 60 ans, c'est 0%.
Hein, voilà.
Qu'on soit vacciné ou non. Hein, donc.
Et donc, voilà, on pourrait effectivement se reposer la question du bien fondé de ce qui avait été mis en place à un moment donné. Au contraire, on a un ministre qui fait la promo du pass vaccinal et de la vaccination. On continue à parler de la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans, ce qui est juste horrible. On sait aujourd'hui que les enfants entre 5 et 11 ans, ils ont très peu de symptômes pendant très peu de temps. Hein. C'est une nuit, 24 heures. C'est ridicule. Et on parle de vacciner des enfants avec une thérapie génique, de leur faire 3 vaccins dans le corps. Non, enfin, effectivement, peut-être que un peu de bon sens, ce serait pas mal.
Votre collectif comprend à peu près une trentaine de personnes. Est-ce que vous avez connaissance d'autres collectifs qui se sont montés un petit peu partout en France ? Et est-ce qu'il y a des liens qui se tissent et, entre différentes personnes et voilà. Est-ce que la lutte peut continuer ensemble ?
Effectivement, il y a des liens entre plusieurs collectifs qui servent essentiellement en fait à remonter le moral, je dirais, parce qu'en fait, en termes d'action, il n'y a pas encore vraiment grand-chose vu le vide juridique, comme l'expliquait tout à l'heure Valérie. Mais au moins, c'est un soutien moral. Et donc, il y a du lien, effectivement, en plusieurs collectifs de plusieurs départements, voilà, où on peut se retrouver, déjà aux manifestations, et une aide financière aussi, parfois. Ça m'est arrivé 2 fois.
D'accord. Donc, il y a des caisses qui
se... Il y a des caisses qui se sont faites, oui.
Qui se sont faites.
Il y a des aides alimentaires aussi. Voilà. Il y a un syndicat qui s'est monté en santé pour venir... porter soutien et secours aux gens suspendus, hein, qui s'appelle Syndicat Liberté Santé. Il y a effectivement d'autres collectifs. Bon, on rejoint aussi des collectifs de gens qui essaient de vivre en étant non vaccinés, hein, parce que bon, malgré tout, on est suspendu parce qu'on est non vacciné, et des gens non vaccinés, il y en a beaucoup plus, qui vivent aussi des restrictions, des limitations, des interdictions, des stigmatisations. Donc oui, il y a tous ces collectifs-là qui existent. Il y a aussi de toute façon des collectifs de soignants suspendus dans tous les départements, parfois dans plusieurs par département. Il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps qui a été médiatisée sur un réseau internet, hein, pas sur les mainstream, c'est ça, mais qui effectivement a donné la parole à des représentants de collectifs qui chacun représentait 30, 50, 150, 200 personnes et qui venaient d'un peu partout, toute la France. Donc oui, il y a du monde quand même qui essaie de créer du lien, du soutien. Et puis, pour échanger aussi avec d'autres gens non vaccinés, il y a l'idée de garder le lien au sein de la population entre eux, et de ne pas créer de clivage entre les non vaccinés et les vaccinés. Parce que c'est important aussi, hein, c'est vrai que la peur divise et la peur a été largement diffusée, donc c'est aussi une façon de réinformer pour recréer aussi du lien et de la tolérance, hein, et du savoir vivre ensemble. Et puis il y a aussi quelque part le chaos qu'on traverse autour de cette situation. C'est aussi l'occasion, quelque part, de se réinterroger sur le sens, sur c'est quoi vivre ensemble, sur c'est quoi cette société dans laquelle on vit, est-ce que c'est celle-là qu'on veut, est-ce que c'est celle-là qu'on veut pour nos enfants aussi. Donc c'est finalement du chaos, mais c'est très riche.
Oui, je vais abonder dans ton sens. Je vais juste prendre ma fameuse citation de Solzhenitsyn que j'aime tant, en toute humilité bien sûr, parce que quand même c'est un grand homme. C'est « Comprenez bien une chose et expliquez-la à tous les dirigeants qui ont besoin de le savoir. Vous n'êtes fort que dans la mesure où vous ne privez pas les gens de tout, car quelqu'un que vous avez privé de tout n'est plus en votre pouvoir. Il est de nouveau entièrement libre. » Et si il y a un côté merveilleux dans toute cette politique, dans tout ce chaos, un chaos qui a quand même été orchestré, moi je reste assez ferme dans mes convictions, c'est un chaos qui a été orchestré, c'est que ça nous a amené à nous interroger sur quel est le sens de notre vie, quel monde voulons-nous pour nos enfants. En tout cas, une chose est certaine, c'est que moi, je refuse de troquer ma liberté contre un QR code, contre un pass, contre quoi que ce soit de cet ordre-là. Je refuse de troquer ma liberté contre quoi que ce soit. Et je souhaite un nouveau monde pour nos enfants, qui sont quand même l'avenir de l'humanité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de collectifs qui se montent. Et à l'heure actuelle, tous ces collectifs, mine de rien, commencent à se mettre en réseau. Et je reste très, très, très positive parce que je sais qu'au bout du compte, quelque chose de merveilleux va sortir de là parce qu'il y a un grand soutien. Tout le monde va exactement dans le même sens. On nous a fait croire qu'on était seul, on nous a fait croire qu'on était isolé, on nous a fait croire beaucoup de choses, mais la réalité est tout autre. Et tous ceux qui commencent à s'intéresser à ces différents collectifs peuvent se rendre compte dans leur quotidien. Nous, en tout cas, sur FIJAC, c'est comme ça qu'on le vit. On vit une autre vie. Moi, je ne me sens pas du tout prise au piège d'une quelconque restriction. Voilà, mon choix est fait. On ne va pas au restaurant, peu importe. On fait des pique-niques avec les amis. On fait des ateliers pour les enfants, etc. On vit autre chose. On crée autre chose. C'est long, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est long, c'est compliqué, mais ça se fait. C'est véritablement... pour moi, un tsunami d'éveil de conscience qui est en train d'arriver, qu'on le veuille ou non. Ce tsunami s'est mis en route, les choses vont aller dans ce sens-là, quelle que soit la gestion politique qui est en route actuellement. Et il faut vraiment garder espoir, et moi j'aimerais bien qu'on termine vraiment sur cette note positive, parce que certes, les choses ont été très difficiles, hein, on est passé par des grosses phases de stress, de tristesse, de désespoir. Mais malgré les difficultés, il ne faut pas oublier que ce raz-de-marée est en route. Et que quoi qu'il arrive, les collectifs sont en train de se rassembler.
Merci beaucoup, Djamila. Merci au collectif des suspendus.
Oubliés,
mais à énergie positive.
À énergie fortement positive.
Merci, Fred, de nous avoir donné cet espace. Parole, oui. Pour pouvoir livrer déjà notre parole en espérant qu'elle sera entendue par vos auditeurs et que éventuellement elle générera des réactions. On est prêt à entendre.
Ah, des réactions, on va en avoir, je pense. Merci beaucoup, à très bientôt.
Merci.
stars.